Bonjour et bon vendredi 2 février, jour de la Chandeleur, mais je vais laisser ça à Mathieu tantôt dans ses éphémérides. C'est Hélène Denis qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Mathieu, comment allez-vous?
Je vais très bien, vous-même?
Oui, je vais bien. J'allais vous poser la question, est-ce que vous avez vu votre ombre ce matin?
Tous les matins, je la vois, en fait. Alors... Non, c'est pas vrai, je fais face au soleil quand je viens travailler, donc je ne la vois pas, à moins de me retourner de marcher à reculons, ce qui est un peu dangereux.
Ah oui, surtout par les temps qui courent. Mais c'est une petite blague.
Oui,
parce que
vous avez fait un lien magnifique.
Ah oui, ça se peut-tu? Ah! J'en fais jamais de lien magnifique. Non, non, mais est-ce que la marmotte a vu son ombre?
Oui,
quelle est la
elle
question?
L'a vu. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Chandeleur, donc le jour de la marmotte. Mm-hmm. Et effectivement, la marmotte a vu son ombre. Donc, nous avons 6 semaines.
Supplémentaires.
Eh oui. Ouais. En fait, il fallait s'y attendre un peu, puisque c'est inévitable.
Qu'elle voit son ombre ou pas, il reste 6 semaines de...
Effectivement.
Mais c'est un jeu, c'est agréable.
Oui, non, on s'amuse et on se rappelle à chaque fois le merveilleux film dont vous avez parlé hier.
Oui, avec Bill Murray.
Et qu'on réécoute à chaque année.
Et vous me disiez que ça ne vieillit pas,
non,
ce film-là.
Vieillit, non,
c'est
effectivement.
Vrai. C'est un classique.
Oui.
25 ans.
C'est fou, ça me rajeunit.
Moi aussi.
Donc,
nous tous, finalement.
C'est aussi la journée mondiale des zones humides, je tenais à le signaler. Voilà. 2009, le premier ministre Jean Charest est fait commandeur de la Légion d'honneur française à Paris, un 2 février, Carla Bruni devient officiellement la nouvelle première dame de France en épousant à l'Élysée Nicolas Sarkozy, c'était en 2008. En 1998, la France renonce au ruineux réacteur nucléaire Super Phoenix dans l'Isère, qui n'aura fonctionné que 30 mois en 10 ans. En 1997, le missionnaire canadien Guy Pinard, au Rwanda depuis 1962, est assassiné probablement par une bande armée Hutu. Les dirigeants syndicaux Marcel Pépin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau entrent à la prison d'Orsainville pour 3 mois et demi en 1973, un 2 février. Au terme d'une journée d'émeute, l'ambassade britannique à Dublin est incendiée en 1972. 1942, Ottawa proclame la côte ouest zone protégée, déportant ainsi les ressortissants japonais qui, en plus, sont expropriés. 1919, une monarchie est restaurée au Portugal. La semaine de Suzette, journal des petites filles bien élevées et incluant les aventures de Bécassine, est lancée à Paris en 1905, un 2 février. À New York, en 1878, création de la Ligue nationale de baseball. 1875, une loi dite du rapatriement est adoptée à Québec, favorisant le retour des Canadiens français immigrés en Nouvelle-Angleterre. 1808, l'armée française occupe Rome après le refus du pape VII de faire alliance contre l'Angleterre. En 1709, l'Écossais Alexander Selkirk est secouru après 5 ans passés sur une île au large du Chili. L'histoire inspirera à Daniel Defoe, Robinson Crusoé. 2 février 1625, des colons hollandais, notamment d'Amsterdam, fondent la colonie sur l'île de Manhattan, donc le futur New York, et l'Espagnol Pedro de Mendoza fonde Buenos Aires en 1536, un 2 février. Et j'ai noté 2 naissances particulières. La naissance de l'écrivain James Joyce en Irlande en 1882. Et aussi le décès de Gene Kelly en 1996. On se rappelle qu'il était danseur et comédien américain. C'est tout.
Bon, ben c'était bien intéressant.
Ah, ben j'ai essayé. Écoutez.
Et Mathieu.
Oui.
On tue la une.
Non.
Fred, la marmotte de Vallès d'Espoir en Gaspésie, n'a pas vu son ombre tôt vendredi matin. Le printemps sera donc hâtif. une de la presse, Cour supérieure du Québec, les ultra-riches créent de la congestion. Le juge en chef déplore les effets terribles sur le système de la multiplication des requêtes par un petit nombre de riches. Norton Pass, coup de frein pour Hydro-Québec. Le New Hampshire rejette le projet de ligne de transport. Santé, l'épidémie de grippe plus forte cette saison que l'an dernier. Et le Botox dans la vingtaine, une nouvelle vogue qui ne finit pas, qui ne fait pas l'unanimité chez les médecins. Dans la mise à jour en direct, les trois occupants d'un hélicoptère ont péri lorsque l'appareil s'est écrasé vers 21h jeudi dans un champ du secteur Saint-Joachim de Courval dans le nord de Drummondville. C'est un hélicoptère qui s'est écrasé. Donc, les victimes sont deux femmes et un homme. Elles ont été identifiées, mais la Sûreté du Québec ne les nommera pas publiquement tant que les membres des familles de ces victimes n'auront pas tous été avisés du drame. Et toujours dans la mise à jour en direct, Desjardins prédit la disparition de la pièce de 5 sous. Un économiste du mouvement Desjardins prédit la disparition prochaine de la pièce de 5 cents. L'économiste principal, Hendrix Vachon, écrit que les pièces de 5 cents apparaîtront de moins en moins utiles en raison de leur faible pouvoir d'achat, mais aussi en raison de tous les coûts qu'ils infligent aux consommateurs et aux entreprises. Les mêmes raisons avaient été évoquées pour abolir la pièce d'un cent en 2013. M. Vachon explique toutefois qu'un système de recyclage a permis de limiter les pressions sur la monnaie royale canadienne pour produire des pièces de 5 cents, comme cela avait été le cas pour les sous noirs. Sans pièces de 5 cents, l'arrondissement des paiements en espèces se fera aux 10 cents près, prédit M. Vachon, et par la même occasion, la pièce de 25 cents deviendra moins pertinente. On devrait alors envisager l'ajout d'une pièce de 20 cents, comme l'ont fait des pays comme la Nouvelle-Zélande, poursuit l'économiste. Bien que majeur, ces changements amélioraient l'efficacité du paiement. En espèces, estime M. Vachon. Une épidémie intense et un taux de succès du vaccin peu reluisant. C'est un article de Caroline Touzin. Vous avez l'impression que l'épidémie de grippe est plus forte cette année autour de vous, car vos collègues de travail s'absentent les uns après les autres? Eh bien, ce n'est pas seulement une impression. Jusqu'à maintenant, on a clairement une épidémie plus intense que celle de l'an dernier, confirme le médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, Gaston Deserre. On recense au Québec depuis 4 semaines près du double de cas d'influenza que lors de la pire semaine de l'épidémie de l'an dernier, souligne M. Deserre. Ainsi, ces 4 dernières semaines, les hôpitaux de la province ont recensé de 1 800 à 2050 cas par semaine, alors que l'an dernier, lors de la plus grosse semaine de grippe, il y avait eu moins de 1100 cas. Vers une épidémie hors du commun, l'an dernier, l'épidémie d'influenza a traîné en longueur, explique le médecin. Si on assiste à la même chose cette année, on aura une épidémie hors du commun. Depuis le retour des fêtes, les urgences du Québec sont engorgées, notamment en raison des cas de grippe et de gastro qui se multiplient. Difficile de savoir si l'épidémie d'influenza s'aggravera encore, ajoute le docteur Deserre. Les chiffres sont stables depuis quelques semaines, mais il peut arriver que ça monte encore un peu. Je pense qu'on est actuellement au cœur de l'épidémie de cette année. Le vaccin contre la grippe a atteint un taux de succès de 10 à 20 contre la souche qui a frappé le plus fort cet hiver, soit la H3N2, l'une des souches de l'influenza de type A, au Canada, selon un bilan de mi-saison réalisé par des chercheurs un peu partout au pays, dont ceux de l'INSPQ. Le taux de succès est plus grand, 55 % pour l'influenza de type B. Air Canada réduit ses tarifs, c'est une exclusivité de la presse. Critiqué depuis des années pour le prix élevé des vols au Québec, Air Canada révise sa tarification. Le transporteur baisse le coût des vols en région pour les voyageurs fréquents et la clientèle d'affaires. Ce n'est pas parce qu'on obtient des gains aujourd'hui que la bataille est définitivement gagnée, dit Jonathan Lapierre, le maire des Îles-de-la-Madeleine, qui est aussi vice-président de la FQM. La FQM, qui est la Fédération québécoise des municipalités. Alors, on propose un tableau coût d'un vol à partir de Montréal, départ le 5 février, retour le 9 février. Au Québec, Montréal-Gaspé, 900 $ et 54 $. Montréal-Rouyn-Noranda, 907 $ et 44 $. Montréal-Sept-Îles, 770 $ et 62 $. Montréal-Île-de-la-Madeleine, 861 $ et 45 $. À l'étranger, Montréal-Pékin, 682 $ et 65 $. Montréal-Paris, 659 $ et 98 $. Montréal-New York, 374 $ et 62 $. C'est une recherche effectuée à partir du moteur de recherche Google Flight hier qui a permis de donner ces chiffres-là. La caricature de Serge Chapleau. Alors, il y a un médecin qui dit à une personne alitée qui semble être malade, stress, grande fatigue, épuisement, n'ayez crainte, une infirmière va s'occuper de vous. Et la personne répond, mais je suis l'infirmière. Montréal met fin au programme de réfection des terrains de balle. L'administration Plante a décidé de mettre fin au programme de réfection des terrains de balle mis en place par l'ex-maire de Nicodère. Montréal cessera ainsi de réhabiliter en priorité les aires destinées au baseball pour laisser aux arrondissements le soin de décider du type de plateau sportif qu'ils souhaitent rénover. Mercredi, le nouveau plan d'investissement de l'administration Plante est venu sonner le glas de ce programme voué exclusivement au baseball. En 2018, 20 terrains de balle seront rénovés, mais ensuite, en 2019, ce programme sera intégré dans le programme des plateaux sportifs. Aussi, si Montréal abandonne les trottoirs chauffants, la métropole ne renonce pas pour autant aux patinoires réfrigérées. L'administration Plante a donné le feu vert à un projet pour aménager chaque année une de ces surfaces réfrigérées au cours des 10 prochaines années. Une autre exclusivité à la presse, Thomas Mulcair enseignera à l'Université de Montréal. Les gens disent qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais, mais je vous le dis, jamais, je ne me représenterai plus jamais en politique. Près de 25 ans après avoir été élu député provincial de Chomedey, Thomas Mulcair quitte la vie politique. À la fin de la session parlementaire au printemps prochain, le député d'Outremont et ancien chef du nouveau Parti démocratique laissera son siège à la Chambre des communes pour aller enseigner à l'Université de Montréal. M. Mulcair a accepté un poste temporaire de 3 ans à temps plein. Il sera responsable d'un cours qui devrait s'intituler « Enjeux sociaux et gouvernance » dans le cadre d'une nouvelle maîtrise en environnement et développement durable, dont le lancement cet été coïncidera avec son arrivée. Et Caroline Mulroney, la fille de l'ancien premier ministre Brian Mulroney, va annoncer d'ici quelques jours qu'elle brigue la direction du Parti progressiste conservateur dans l'Ontario, a rapporté hier soir le réseau CBC. Madame Mulroney, qui est déjà candidate aux élections provinciales prévues le 7 juin en Ontario, deviendra ainsi la troisième personne à se lancer dans la course, après l'ancien conseiller municipal Doug Ford et l'ancienne députée conservatrice à Queen's Park, Christine Elliott.
En regardant le fleuve, je ne cherche pas d'épreuve pour appuyer l'air midi. M'annonçant mon déclin qui qui viendra de ta main ou d'un appendice bien pire. Je ne chasse pas les papillons, plutôt les illusions. Tu sais si bien mentir. Je disparaîtrai
C'était Frédéric Garicomo et sa chanson « Je disparaîtrai ».
Une mort inexpliquée. Hospitalisé pour une appendicite au centre hospitalier de la Naudière à Joliette, Jimmy Lee, 17 ans, est décédé dans d'obscures circonstances. Ses parents, qui soupçonnent une erreur médicale, veulent des réponses. Dopage aux Olympiques, 28 Russes blanchis. Alors, à propos du dopage aux Olympiques et de ce titre intitulé 28, ce titre donc 28 Russes blanchis, on peut voir le fondateur russe Alexander Legkov et les chroniques de Pierre Harvey, le père d'Alex Harvey, intitulé « Ça me lève le cœur de voir ça » et Régent Tremblay « Je ne crois pas aux jeux propres ». Il décède à l'hôpital dans d'obscures circonstances. Les parents soupçonnent une erreur médicale et veulent des réponses. Décidé à obtenir une réponse des autorités sur les causes du décès de Jimmy Lee, 17 ans, ses proches comptent intenter une poursuite contre le centre hospitalier de la Naudière à Joliette. C'est à cet hôpital que l'adolescent s'est rendu le 13 janvier dernier, puisqu'il ressentait des douleurs au ventre depuis plusieurs jours. Une radioscopie et un scan ont alors confirmé qu'il souffrait d'une appendicite, explique Ghislain Durocher. L'opération nécessaire, dans ce cas-ci, une appendicectomie, est très courante. Elle a été prodiguée près de 9 500 fois dans le réseau de la santé québécois en 2016 et 2017. Ghislain Durocher est le père de la jeune victime. Mais tout a dérapé. Plus tard dans la nuit, raconte la belle-mère de Jimmy Lee, Isabelle Racine, qui dormait dans la même pièce, tout comme la petite amie de l'adolescent. Le jeune homme subissait alors un arrêt cardiaque, comme le confirme la mention « code bleu » écrite dans le rapport médical du CHDL, donc le centre hospitalier de la Naudière, et dont le journal a pu consulter des extraits. Plongé dans un coma profond, Jimmy Lee a ensuite été transporté à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, où il est resté plusieurs jours dans un état de mort cérébrale avant d'être finalement débranché. Selon les parents, le personnel de l'hôpital Sacré-Cœur les aurait informés qu'une erreur médicale qui se serait produite à Joliette pourrait être à l'origine de l'arrêt cardiaque de leur fils. Mais encore faut-il le prouver, explique l'avocat spécialiste en santé Jean-Pierre Ménard, qui a été saisi du dossier. Le bureau du coroner a également ouvert une enquête. L'annonce du décès de Jimmy Lee Durocher a ébranlé la petite communauté de Saint-Michel-des-Saints dans la Naudière où réside sa famille. Coup de massue dans le projet Norton Pass d'Hydro. Une commission américaine rejette la ligne de transport électrique. Le Massachusetts a confirmé son intention d'acheter pour près de 10 milliards en hydroélectricité québécoise la semaine dernière. L'entente de 20 ans a été qualifiée d'historique par Hydro-Québec. Mais hier, l'État du New Hampshire, à travers lequel doit passer la ligne de transport électrique Norton Pass, a décidé de bloquer le projet. Les 7 membres de la commission d'examen du site SEC de l'État de la Nouvelle-Angleterre ont rejeté à l'unanimité le projet dans sa forme actuelle. La SEC juge que les promoteurs n'ont pas su démontrer que la ligne de transport proposée n'entraverait pas indûment le développement ordonné de la région. Une décision écrite doit être rendue le 31 mars. Hydro-Québec ne cache pas sa déception face à cette décision, mais est loin de jeter l'éponge. Depuis plus de 2 ans, des citoyens du New Hampshire multiplient les actions pour montrer leur opposition au projet Norton Pass qui traversera la région des Montagnes Blanches de l'autre côté de la frontière. En octobre dernier, une centaine de manifestants se sont réunis dans la ville de Plymouth et dès 2015, des contestataires américains s'attaquaient déjà à Hydro-Québec. En réaction à l'accident au palais de justice de Maniwaki, où un jeune a été tiré au visage par un constable spécial pendant un affrontement, quelques dizaines de manifestants ont pris la rue hier soir au centre-ville de Montréal afin de dénoncer la brutalité policière. Des slogans anti-police ont été scandés, mais on ne rapporte aucun débordement. Sous un fort encadrement policier, la soixantaine de manifestants ont marché en plein centre-ville, notamment sur le boulevard René-Lévesque Ouest, avant de bifurquer vers le palais de justice. La manifestation a pris fin après environ 1 heure lorsque les protestataires se sont engouffrés dans la station de métro de Berry-UQAM. Un homme a été arrêté, puis libéré par la suite, rapporte la police de Montréal. Il pourrait possiblement être accusé de voies de fait envers un agent. Les consommateurs paient leurs 2 litres de lait 4 à 6 cents plus cher depuis hier, puisque l'augmentation des prix demandés par les laiteries a été acceptée. Le prix du lait était resté stable depuis 2 ans. C'est la Régie des marchés agricoles et alimentaires qui détermine les montants minimum et maximum du lait sur les tablettes de la province. Le Conseil des industriels laitiers du Québec, qui représente les laiteries comme AgroPure, avait fait une demande d'augmentation de 3,48% du prix en se basant sur 3 critères. Critères: l'augmentation de leurs propres coûts, la capacité de payer des consommateurs et l'indice des prix à la consommation, explique Charles Langlois, président-directeur général du Conseil. « Grégory Charles perd tragiquement son père, heurté mardi soir par un tracteur de déneigement à Montréal. Le père du chanteur Grégory Charles a succombé à ses blessures hier matin. Nous étions là à ses côtés, a indiqué l'artiste sur sa page Facebook. Je ne trouve pas les mots pour expliquer ce que j'ai ressenti de paix, de lumière, d'amour à l'instant où il est parti. Lennox Charles, 77 ans, revenait de l'église lorsqu'il a été happé mortellement, alors qu'il traversait à pied le chemin de la Côte des Neiges. Un poste de commandement a été installé à Louisville dans l'espoir de trouver Mélissa Blais ou du moins un indice concernant sa mystérieuse disparition. L'objectif est simple, recueillir de nouvelles informations pouvant faire avancer l'enquête sur la femme de 34 ans de Yamachiche, mère de deux enfants portés disparus depuis maintenant 3 mois. Selon nos informations, l'enquête aurait progressé, plusieurs personnes ont été rencontrées par la Sûreté du Québec. Les enquêteurs ne peuvent pas conclure à un geste criminel pour expliquer la disparition de Mme Blais, mais aucune hypothèse n'est écartée. If you're willing to wait for the love of your life, please wait by the line. And you know this was if prisms remove. But my native optimism isn't broken by the light. The idea of life without company fell suddenly. He crashed through the ceiling on me and pinned me to the pine. Bones to oil in time. Are you a pusher or are you a puller? I pull the weight towards me, and I like the zest of a lemon looking forward, unless I have a woman pushing me. Of red milk we are passed over the blue. A 5-hour flock, not one dive down to tell you the truth. As night falls, Aquilia crows and whispers on his last wing. So abundant are we, left alone I shall be, but to wait if phone never ring. Are you a pusher or are you a puller? I pull the weight towards me, and I like the zest of a lemon looking. Unless I have a woman pushing me. Are you a pusher or are you a puller? We can hold hands for 50 minutes in the sauna. We can hold hands for a pool length underwater. I can push and pull.
La chanson s'appelait Pusher et le groupe s'appelle Alt-G.
À la une du Devoir de ce vendredi 2 février, dopage, Oni puis Blanchi. Décision favorable à des athlètes russes, le tribunal arbitral du sport a annulé la suspension à vie imposée par le Comité international olympique à 28 athlètes russes pour dopage aux Jeux d'hiver de 2014. Parmi eux, Alexander Tretiakov a remis la main sur sa médaille d'or gagnée à Sotchi, alors qu'on le voit descendre en luge. Santé, cœur, patient, la liste d'attente au Québec pour les chirurgies cardiaques est repartie à la hausse. UPAC, Guy Ouellet jure ne pas être la source des fuites. Le député témoignait dans le cadre du procès des ex-ministres Normandeau et Côté. Science, l'avenir, l'album Souvenir de l'humanité invisible à l'œil nu, un projet de recherche réunira 10 000 photos sur un support génétique. Économie, les immigrants norvégiens dont rêve Donald Trump viennent aujourd'hui d'Haïti. Une analyse d'Éric Desrosiers. Norton Pass, Hydro-Québec se heurte à de l'opposition. Harcèlement autour de la famille néo-démocrate d'être dans l'embarras. Et Zeitgeist, c'est la chronique de José Blanchette intitulée « Odette a du Prévert sous le chapeau ». Plus de 1000 patients attendent une chirurgie cardiaque au Québec. L'Institut de cardiologie de Montréal, ICM, qui n'a jamais autant opéré, attend le financement de Québec pour ouvrir au maximum de sa capacité une salle d'opération actuellement sous-utilisée. De plus en plus de personnes ont besoin d'une intervention cardiaque. Nous sommes passés de 7000 à presque 8000 cas par an, explique le Dr Louis Perrault, qui préside l'Association des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques du Québec. Selon le Dr Perrault, c'est en partie parce que le CHUM et le CUSUM font moins de cas qu'avant, que la liste d'attente à l'ICM a augmenté malgré le fait qu'on en fait de plus en plus. Il y est chef du département de chirurgie. Ce sont 325 patients qui attendent une intervention de ce type à cet établissement. Les nouveaux CHUM et CUSUM n'ont eu aucun impact sur la liste d'attente, a écrit le ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S, au Devoir. Le ministère pointe plutôt le vieillissement de la population et l'évolution de la technologie qui amène de nouvelles avenues thérapeutiques. Au tournant de l'an 2000, les chirurgiens cardiaques avaient dénoncé avec véhémence la liste d'attente qui atteignait presque 1000 patients. Des cas de patients morts en attente pendant leur procédure, avaient vu les manchettes avant que le gouvernement alors péquiste n'injecte 25 millions de dollars pour juguler la crise. Selon le Dr Louis Perrault, la situation actuelle, bien que préoccupante, n'est pas aussi grave car les capacités ont augmenté. Sans être inquiet, les chirurgiens comme lui sont préoccupés, explique-t-il. Les processus sont en marche pour augmenter le nombre d'interventions et ramener la liste à des niveaux plus acceptables, dit-il. L'islamophobie divise encore la colline du Parlement. Un comité recommande au gouvernement de proclamer une journée nationale de dénonciation de la haine envers l'islam. L'islamophobie divise plus que jamais la Chambre des communes. Alors qu'un comité parlementaire à majorité libérale recommande au gouvernement fédéral de faire du 29 janvier une journée nationale de dénonciation de l'islamophobie, la minorité conservatrice s'y oppose farouchement, allant jusqu'à recommander de ne plus utiliser ce mot dans l'espace public. Le rapport du comité déposé jeudi permet de constater que le clivage persiste. Le comité propose 30 recommandations, notamment d'élargir le plan d'action contre le racisme pour englober la discrimination religieuse et de financer un dialogue interreligieux et interconfessionnel. Mais surtout, le comité suggère qu'Ottawa désigne le 29 janvier, date de la fusillade à la Grande Mosquée de Québec, journée nationale de commémoration et d'activité concernant l'islamophobie et toute autre forme de discrimination religieuse. Les trois députés conservateurs membres du comité signent un rapport dissident dans lequel ils proposent plutôt de faire du 29 janvier une journée nationale de la solidarité avec les victimes d'actes d'intolérance et de violences anti-religieuses. Ils demandent aussi au gouvernement fédéral de cesser d'utiliser le terme « islamophobie » étant donné l'incapacité à s'entendre sur une définition précise du terme. Après les infirmières, voilà que les cadres du milieu de la santé s'en prennent au ministre Barrette, à qui ils reprochent d'avoir instauré un régime de peur dans le domaine de la santé. Ne pensez pas que nos cadres ne voudraient pas dénoncer haut et fort tout ce qui ne fonctionne pas dans cette réforme, mais ils sont syndiqués et n'ont pas la sécurité d'emploi, comme Émilie Ricard a écrit l'Association du personnel d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux, dans une mise en demeure qu'elle a envoyée mercredi au journaliste Patrick Lagacé et à son employeur La Presse. L'association reproche aux chroniqueurs d'avoir écrit que les gestionnaires du réseau de la santé ont une sainte horreur des sorties publiques de leurs employés, des cris du cœur comme celui lancé par Émilie Ricard, cette infirmière dont le ras-le-bol a fait le tour des médias. Le chef de contentieux de l'Association du personnel d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux, Anne-Marie Chiquette, donc la chef, estime que les cadres n'ont pas la cote. Pourtant, ils se heurtent à l'intransigeance des commandes en provenance du ministère de la Santé et se trouvent dans une position qui n'est pas gérable, déplore-t-elle. Le nouveau Parti démocratique a établi de nouvelles normes en matière de dénonciation de comportements inappropriés en ouvrant une enquête indépendante sur Erin Weir, sur la foi d'un courriel envoyé par une personne qui ne se dit pas elle-même victime du député de Regina Loven en Saskatchewan. Un courriel a été envoyé aux membres du caucus du NPD, a déclaré le chef Jagmeet Singh. Il comportait des allégations selon lesquelles un député de notre caucus, Erin Weir, aurait eu des comportements harcelants envers des femmes, plus particulièrement des membres du personnel du NPD. Les préoccupations étaient soulevées non pas par un survivant ou par quelqu'un qui a personnellement vécu quelque chose, mais par quelqu'un qui voulait nous faire de part de préoccupations. La dénonciation provient de la députée néo-démocrate Christine Moore. Monsieur Weir avait écrit à ses collègues en leur annonçant qu'il désirait devenir président du caucus. Madame Moore lui avait répondu « Tu es la dernière personne dans le caucus que je voudrais voir dans ce poste. Il y a trop de femmes, principalement des employées, qui m'ont confié que tu les harcelais. » Fidel Castro Diaz Balart, fils aîné de l'ex-président Fidel Castro, s'est suicidé jeudi à l'âge de 68 ans, a annoncé la presse officielle cubaine. Le docteur en sciences Fidel Castro Diaz Balart, qui était suivi depuis plusieurs mois par un groupe de médecins, en raison d'un état profondément dépressif, a mis fin à ses jours aujourd'hui, 1er février, dans la matinée, a annoncé le quotidien officiel Granma. Et l'homme qui avait foncé sur des fidèles près d'une mosquée du nord de Londres en juin 2017 a été reconnu coupable de meurtre et de tentative de meurtre jeudi. Le jury n'a mis qu'une heure à décider du sort de Darren Osborne, 48 ans. Makram Ali, 51 ans, a été tué et 15 autres personnes ont été blessées lorsqu'elles ont été fauchées par la camionnette louée par Osborne. les fidèles quittaient la mosquée après les prières du soir pendant le mois sacré du Ramadan. Les procureurs affirment que M. Osborne était inspiré par une islamophobie intense et qu'il percevait les musulmans comme des extrémistes ou des violeurs membres de réseaux pédophiles. La juge Bobby Shima Grob prononcera la peine vendredi.
Nous serons des milliers, une main sur le cœur, à trouver le bonheur, comme on cueille une fleur. Nous serons des centaines, des oiseaux migrateurs, à rechercher les plaines, loin des dents de la haine. Nous serons bien assez, un jour, des centaines de milliers. Nous serons bien assez, un jour, des centaines de milliers, des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Nous serons des milliers à enfin décider le matin de nos rêves, le début de la trêve. Nous serons souverains de nos gestes, de nos mains, sur la terre de nos pères, jusqu'à l'aube de la mer. Nous serons bien assez, un jour, des centaines de milliers. Nous serons bien assez, un jour, des centaines de milliers, des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Nous serons les premiers à se donner des mots d'or et de paix, des promesses de jamais. Nous serons des centaines à écraser les peines sous nos souliers ferrés qui déparent nos idées. Nous serons bien assez. Des centaines de milliers. Nous serons bien assez. Un jour, des milliers de milliers. Nous serons bien assez. Un jour, des centaines de milliers. Des centaines de milliers.
Sébastien Lacombe, et nous serons des milliers.
Les journaux régionaux maintenant. Quand Facebook usurpe votre identité, c'est dans le Nouvelliste, Brigitte Trahan qui signe le texte. Le conseiller municipal de Trois-Rivières, Pierre Montreuil, a récemment reçu un message de sa cousine. Elle voulait savoir s'il venait réellement de lui envoyer une demande d'amitié sur Facebook. C'est qu'il faisait déjà partie de sa liste d'amis. Les deux ont flairé l'arnaque et M. Montreuil a avisé Facebook qu'un intrus se faisait passer pour lui. « Ce sont peut-être les Russes », dit-il à la blague. Des situations comme celle-là sont très fréquentes au point où quatre personnalités de la région ont vu leur compte Facebook piraté au cours des derniers jours. C'est le cas notamment du président de la SPA et de la Mauricie, conseiller municipal Daniel Cournoyer. Certains amis Facebook de M. Cournoyer ont reçu tout récemment une demande d'amitié de la part d'un certain Tsengel Naruhu. La photo de couverture, le visage et toutes les informations sur ce compte ont été volées à Daniel Cournoyer. « Pourtant, je ne ressemble pas à une Asiatique », dit-il à la blague. Sur la recommandation de Facebook, le conseiller a donc immédiatement avisé ses contacts de la situation. En date de jeudi, la fausse page était toutefois toujours active. Denis Roy, conseiller municipal à Trois-Rivières et expert en communication reconnu dans la région, explique que les personnes qui volent ainsi des informations appartenant à des comptes Facebook utilisent une technique qui s'apparente à de l'hameçonnage. Si l'on acceptait par erreur la demande d'un tel avatar, cela ne représenterait pas de danger comme tel, dit-il. Le risque, explique-t-il, c'est lorsque ces faux amis nous envoient des liens ou des documents via Messenger, la messagerie courriel de Facebook, et qu'on les ouvre. Les pirates informatiques, explique Denis Roy, veulent avoir accès à de l'information qu'ils vont être en mesure de revendre ou ils veulent entrer dans un appareil, dit-il, pour y installer un rançongiciel, c'est-à-dire un programme malveillant qui verrouille les ordinateurs et demande une rançon en échange du déverrouillage. Plus grave encore, certains pirates veulent aussi se servir d'un appareil comme d'un zombie, c'est-à-dire qu'ils induisent des tâches en arrière-plan de notre ordinateur dont on n'a pas connaissance. Ça sert à faire des attaques ailleurs sans qu'il ne soit retracé, explique-t-il. Pour prévenir le problème, conseille M. Roy, il ne faut pas ouvrir dans Messenger un fichier qu'on n'attend pas ou un lien qui provient d'un avatar. Une façon de faire un peu de prévention, c'est d'aller dans la section des paramètres de notre page Facebook qui permet de restreindre notre visibilité à notre liste d'amis. Ce n'est toutefois pas toujours possible, concède-t-il, surtout lorsqu'on est une personnalité publique. L'ancien ministre au Parti québécois, Yves-François Blanchet, compte parmi ceux qui ont récemment goûté à la médecine des pirates sur Facebook, et deux fois plutôt qu'une. Un individu dont l'origine a finalement été retracée en Grande-Bretagne avait piraté son compte où une carte de crédit était inscrite, raconte-t-il. « J'ai tout fermé avant qu'il puisse faire quelque chose », dit-il. C'est un risque qu'encourent ceux qui, comme lui, paient de la publicité sur Facebook. À la suite de cette mésaventure, M. Blanchet a dû refaire tous ses contacts Facebook un à un et il conserve désormais une limite minimum sur sa carte de crédit en cas de vol. La seconde fois, dit-il, un pirate a inventé un faux compte avec ma face et mes informations, dit-il. Sur cette fausse page, il mettait des trucs religieux, des trucs mal écrits dans un très mauvais français. Fort heureusement, il n'y a pas grand monde qui s'est fait prendre parmi ses amis Facebook. Denis Roy estime d'ailleurs qu'une des meilleures armes pour éliminer les avatars, c'est la vigilance collective. Yves-François Blanchet indique d'ailleurs que plusieurs personnes ont dénoncé à Facebook l'avatar dont il a été victime. « Je pense que ça a duré 20 minutes, peut-être une heure », dit-il. La mairesse de Nicolette, Geneviève Dubois, a elle aussi été piratée il y a quelques jours. Toutefois, en 3 minutes à peine, j'ai reçu 50 messages d'amis Facebook qui me disaient que quelque chose n'allait pas. Il y a vraiment une belle solidarité sur les réseaux sociaux. Le lendemain, tout était réglé, dit-elle. La seule crainte de la mairesse Dubois face à ce phénomène, c'est qu'un avatar se serve de sa photo et de ses informations personnelles pour dire toutes sortes d'absurdités en son nom. Imaginez s'il avait promis une baisse de taxes, illustre-t-elle en riant. Denis Roy recommande donc aux internautes d'être vigilants face à leur compte Facebook, de ne pas hésiter à aviser en cas de demande d'amitié suspecte, de ne pas ouvrir de fichiers ou de liens sur Messenger, à moins d'être certain de leur provenance et d'avoir une version récente du système d'exploitation de leur ordinateur pour éviter les failles de sécurité. Thank you. prévention du suicide, parler sauve des vies. C'est un article d'Anne-Marie Gravel dans le quotidien. La prise de parole sera au cœur de la 28e édition de la semaine de prévention du suicide. Du 4 au 10 février, le Centre régional de prévention du suicide et l'Association québécoise de prévention du suicide invitent les gens à sensibiliser leur milieu, leurs proches et leurs collègues au fait que parler du suicide sauve des vies. Que l'on souhaite exprimer sa détresse et trouver du réconfort, demander à un proche qui ne va pas bien s'il pense au suicide, diffuser les ressources d'aide ou mobiliser sa communauté, il existe des mots pour en parler de manière préventive et sécuritaire et des clés pour une écoute attentive, affirme le Centre de prévention du suicide de la région par voie de communiqué. Le CPS 02, donc le Centre régional de prévention du suicide, assure que la prise de parole a des effets bénéfiques qui peuvent contribuer à sauver des vies, peu importe la situation. La QPS, l'Association québécoise de prévention du suicide, met d'ailleurs des conseils à la disposition de la population afin de traiter du sujet au www.commentparlerdusuicide.com. Peter Stachny, immortalisé dans le bronze et dans le soleil, Jean-François Néron, le célèbre numéro 26 des Nordiques, Peter Stachny, a obtenu la faveur populaire pour la commémoration hockey de la place Jean Béliveau du Centre Vidéotron. Le sondage, auquel ont répondu 19 074 personnes, a donné le Slovaque gagnant sans équivoque avec 45 % des voix. Le coup de sonde lancé en décembre visait à déterminer quel joueur des Nordiques verrait une sculpture de bronze à son image orner la place Jean Béliveau. Les citoyens ont été nombreux à participer au choix de l'œuvre d'art en hommage aux Nordiques dans la LNH, a mentionné le maire de Québec par voie de communiqué. Peter Stachny est un homme impressionnant. Il détient le record du plus grand nombre de points dans l'histoire de l'équipe, en plus de s'être fortement engagé dans la communauté québécoise, notamment en apprenant le français. Ce sera un honneur d'immortaliser cet homme à Québec. Au total, les participants au sondage pouvaient choisir entre 5 joueurs en plus d'une réponse ouverte. Michel Goulet a obtenu 22 % des voix, Alain Côté 19 % Joe Sakic 8 % Dale Hunter 2 % et la catégorie « Autres » 4 % Pour cette dernière, les trois frères Stachny est revenu le plus souvent. L'œuvre d'art en hommage à Peter Stachny sera aménagée à l'automne 2019. Elle ira rejoindre une œuvre d'art représentant Jean Béliveau qui sera installée à l'automne. De nouveaux sondages seront effectués chaque année à propos des Bulldogs, des Remparts et des Nordiques dans l'Association mondiale de hockey afin de déterminer les personnalités à honorer au cours des prochaines années. La Ville de Québec offre aussi au milieu des affaires et aux investisseurs privés la possibilité de financer une sculpture figurative. Vous écoutez en direct l'émission Le quotidien des quotidiens et c'est Hélène Denis qui vous accompagne à venir les actualités culturelles et le segment Sujet libre.
Je suis pas vraiment de nom, sinon.
Je peux voir plus loin quand t'as les pieds sur le frein. Quand t'as les pieds sur le frein.
Louis-Jean Cormier et sa chanson Saint-Michel.
Allons-y donc avec le segment culturel. Le pianiste québécois Marc-André Hamelin sera de passage à la Maison symphonique dimanche à 14h30 afin de présenter en première canadienne sa composition « Quintette pour cordes et piano ». Le musicien de renommée mondiale sera accompagné à cette occasion du quatuor Pacifica, ensemble de musique de chambre en résidence à l'Université de l'Indiana à Bloomington. Des pièces de Schumann et de Beethoven seront aussi au programme. Officier de l'Ordre du Canada et chevalier de l'Ordre national du Québec, Hamelin a remporté au cours de sa carrière 4 prix Juno et 2 prix Opus. Alors, le concert a lieu, je vous le rappelle, dimanche 4 février à 14h30. C'est en une du soleil lumineux carnaval avec Odys, O-D-Y-S-S, Camille B. Vincent, une lumineuse symphonie. C'est ainsi que je tenterai de décrire l'expérience Odys, terre de glace, cette attraction vedette du 64e carnaval de Québec qui met en scène le palais de Bonhomme à la nuit tombée. Je dis bien tenter de décrire parce qu'il n'est pas aisé de dépeindre en mots cette expérience, tout ce qu'il y a de plus sensoriel. On s'y lance d'abord fasciné par les ondulations de lumière qui grimpent sur l'immense façade triangulaire du palais, d'autant plus fasciné lorsqu'on réalise que ces sillons lumineux prennent plus ou moins d'amplitude selon l'assiduité avec laquelle les visiteurs jouent sur ce qu'on pourrait qualifier d'instrument de musique réinventé. C'était vraiment pour créer une espèce de symphonie hivernale, explique Danielle Normandin, productrice chez Blackout Design, une entreprise de Québec à qui l'on doit en plus d'Odyssée Terre de glace, l'animation visuelle de l'Igloo Fest en 2017 et d'une dizaine de Red Bull Crushed Ice à travers le Canada. Une fois au cœur du Palais de Bonhomme, on découvre au sol un lac gelé, fait de lumière, vous aurez compris, qui se meut sous nos pieds et aux abords duquel flottent des icebergs. Et puis, il y a ces deux passages parallèles, l'un représentant le jour, l'autre le soir, qui se rejoignent de part et d'autre d'une cloison chantante évoquant un kiosque de fête foraine. Au fond, Odysse Terre de glace, c'est un instrument de musique géant auquel on donne des airs d'arcade hivernale et au cœur duquel petits et grands ont paru éblouis jeudi soir lors du passage du soleil. Encore dans le soleil, Caravane chauffera les planches pour Deep Purple en France. Le groupe de Québec Caravane refera sous peu ses valises pour se mesurer à de grands noms de la musique. Direction la France, où le chanteur Dominique Pelletier et ses complices ont été choisis pour assurer la première partie du spectacle de Deep Purple au festival Pause Guitare d'Albi. Joint jeudi midi, Dominique Pelletier ne pouvait se réjouir davantage de l'occasion qui s'offrira cet été à son groupe. Surtout que la chanson « Smoke on the Water » est la première qu'il a apprise lorsqu'il s'est mis à la guitare, il y a une douzaine d'années. On dirait que dans mon temps, c'était un peu la première chanson de tout le monde à la guitare, a-t-il rigolé. Le groupe que Pelletier forme avec Raphaël Potvin, William Duguay-Drouin et Guillaume Méthode se produira donc à Albi le 6 juillet sur la scène principale de « Pause guitare ». Ces planches accueilleront le même soir une prestation de l'ex-Rita Mitsouko Catherine Ringer et de la formation britannique Deep Purple, le Zoulou blanc Johnny Clegg, actuellement en tournée d'adieu, Santana, le groupe Texas et James Blunt figurent aussi à la programmation du festival qui se tiendra du 3 au 8 juillet. Un volet baptisé Québécofolie offrira aussi une tribune à la formation Les Poules à Colin, au Winston Band, à Samuel et à Sophie Pelletier. J'espère que tout le monde va danser. Justin Timberlake promet du plaisir à la tonne à la mi-temps du Super Bowl. Tom Brady est le plus grand de tous les temps. C'est définitivement le genre de gars que j'inviterais chez moi pour regarder le Super Bowl, a dit Justin Timberlake. Il vient de fêter ses 37 ans, Justin. Il se prépare pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl et sort un nouvel album. Bienvenue dans la vie trépidante de Justin Timberlake qui a promis quelques trucs que jamais vus auparavant pendant la grand-messe du football dimanche. Malgré toute l'attention qui lui est portée en cette période faste et tout le glamour associé au Super Bowl, Timberlake s'est présenté à la traditionnelle conférence de presse du spectacle de la mi-temps à Minneapolis sans le moindre artifice. Celui qui lance aujourd'hui son cinquième album studio intitulé « Man of the Woods » a répondu aux questions avec humour en toute simplicité. À la question « Vous êtes nerveux quand on vous écoute chanter? » Essayez donc devant 130 millions de personnes, a-t-il badiné. Celui-ci qui amorcera le 13 mars une tournée nord-américaine et qui sera de passage à Montréal les 8 et 9 avril, ne s'est pas aventuré sur les grands coups qu'il planifie, mais assuré qu'il préparait une prestation centrée autour de l'essentiel. Mathieu est en train de me raconter qu'il a déjà rencontré Justin Timberlake dans l'ascenseur.
Oui.
Et qu'il était vraiment sympathique.
Et tout à fait. Ouais. En fait, il est authentique et sympathique.
Ouais. Ça ne m'étonne pas. Parce que souvent, les gens les plus talentueux n'ont rien à prouver. Ils sont humbles. Alors, voilà. Merci, Mathieu. Une aide financière de 100 000 $ a été octroyée par la Ville de Montréal au cinéma Beaubien afin de soutenir l'institution culturelle qui a été l'objet d'importantes rénovations dans les dernières années. L'annonce a été faite par la conseillère municipale dans le district du Vieux-Rosemont et responsable de la culture au comité exécutif, Christine Gosselin. Le cinéma indépendant du quartier Rosemont n'a pas tardé à réagir, qualifiant cet investissement de grande nouvelle sur sa page Facebook. Le cinéma Beaubien, qui célébrait 80 ans d'existence l'an dernier, a lancé plusieurs campagnes de financement dans les dernières années afin de pouvoir, entre autres, remplacer progressivement les sièges de ses trois salles, changer son système de projection en passant au numérique et moderniser son système de billetterie. Dans le cadre d'un cycle qui prend fin lundi, la Cinémathèque québécoise propose notamment « L'arbre, le maire et la médiathèque », l'un des films les plus étonnants du réalisateur de « Ma nuit chez Maude » avec Fabrice Lucchini et Ariel Dombal, donc Éric Romer à la Cinémathèque québécoise, et le film dont je viens de vous parler, « L'arbre, le maire et la médiathèque » est présenté ce soir à 18h45 à la Cinémathèque. La femme de l'hôtel à Québec, le premier long-métrage de Léa Poule, restauré par le programme Éléphant, fera l'objet d'une présentation dimanche au Musée national des beaux-arts du Québec. Louise Marleau, tête d'affiche du film, sera présente pour l'occasion dimanche à 14h. La maison qu'habitait Gabriel Roy à Petite-Rivière-Saint-François a été cédée à la municipalité par le fonds Gabriel Roy qui l'administrait depuis des années. C'est là que Gabriel Roy a écrit tous ses livres de la Montagne secrète en 1961 jusqu'à La détresse et l'enchantement publié à titre posthume. Je voulais continuer. Après la mort de Gabriel Roy en 1983, La propriété est allée au mari de celle-ci, puis au fond Gabriel Roy, qui en a fait une résidence d'écrivain durant une vingtaine d'années. La municipalité de Petite-Rivière se propose quant à elle de la rendre accessible au public et d'y offrir des résidences de 3 semaines ou plus pour des écrivains de la relève choisis par des organismes culturels de la région.
Yeah.
Directement de la Gaspésie, Marie-Pierre Arthur, sa chanson « Rien à faire ».
Prévenir les rides dès la vingtaine. Pour améliorer son apparence et donner une impression de jeunesse, les injections de Botox seraient de plus en plus prisées par les femmes dans la vingtaine. Or, un tel traitement à cet âge ne fait pas l'unanimité chez les médecins. C'est un dossier signé par Nadiel Koutlou, K-U-T-L-U. « J'aime savoir que je retarde le vieillissement de mon visage. » C'est une citation pour ouvrir le dossier. Laurence, 25 ans, a eu ses premiers traitements de Botox l'an dernier. Vers 23 ans, j'ai commencé à voir des rides sur mon visage, principalement la ride du lion entre les sourcils. Pour contrer l'apparition de nouvelles rides et éliminer celles que j'avais, j'ai décidé de commencer le Botox. Je suis très consciente que j'ai commencé tôt et que ce n'était pas nécessaire, mais c'était plus préventif que réactif, explique-t-elle. Cette jeune professionnelle montréalaise du milieu des assurances est ravie du résultat. « Mon front est lisse et j'aime savoir que je retarde le vieillissement de mon visage. » Outre le Botox, elle a fait retoucher ses lèvres et ses cernes. Spécialisée en finance, Justine, 26 ans, a aussi reçu ses premières injections de Botox l'an dernier par prévention. « Je commençais déjà à remarquer certains changements sur mon visage. » Comme j'ai des sœurs plus âgées, je peux voir les ondes de notre visage plus sensibles au passage du temps, surtout au niveau du front, explique-t-elle. Elle est satisfaite de son traitement annuel. Je n'ai toujours pas de plis dans mon front, car je fais de la prévention, sinon je sais que j'en aurais probablement, dit Justine. Aux États-Unis, les injections de Botox chez les 20 à 29 ans ont augmenté de 28 % depuis 2010, selon l'American Society of Plastic Surgeons. Des données similaires ne sont pas disponibles au Québec, mais certains médecins confirment cette nouvelle réalité. La docteure Chloé Sylvestre, médecin omnipraticienne spécialisée en dermatologie et en esthétique, constate que les patients dans la vingtaine qui ont recours au Botox représentent maintenant de 15 à 20 % de sa clientèle. Un chiffre en hausse qui a plus que doublé depuis les deux dernières années, note-t-elle. Je crois que les médias sociaux y sont pour beaucoup, avance la docteure. Quelles parties du visage sont ciblées par cette clientèle? Les zones du front, de la glabelle, entre parenthèses, ride du lion, entre les deux yeux, et des pattes-doigts, répond-elle. La docteure Sylvestre voit d'un bon œil la prévention des rides et ridules dans la vingtaine, car cela permet de vieillir avec une meilleure mine, affirme-t-elle. On a réalisé qu'il y avait un réel bénéfice à commencer plus tôt. Avant, les gens étaient considérés comme jeunes s'ils commençaient fin trentaine, début quarantaine. Mais dans les dernières années, les études ont démontré que la prévention donne de meilleurs résultats, dit-elle. Elle explique qu'une personne qui commence le Botox tôt se retrouvera avec des résultats plus beaux et naturels qu'une personne qui fera du Botox après avoir laissé les rides apparaître et le collagène se dégrader. Et à la longue, on investit moins d'argent que si on commence plus tard. La médecin souligne aussi qu'on injecte moins de produits chez les jeunes. Elle précise qu'elle refuse tout patient de moins de 18 ans. Et dans la vingtaine, le traitement reste du cas par cas, souligne-t-elle. Si aucune ridule n'est apparente sur le visage, elle suggère un rendez-vous pour des injections l'année suivante ou même encore plus tard. La génétique est aussi un facteur à considérer. Souvent, celles qui commencent dans la vingtaine me parlent du visage et des rides très prononcées de leurs parents. « Les jeunes sont plus alertes », constate-t-elle. Le son de cloche est toutefois bien différent auprès de la dermatologue Suzanne Gagnon, spécialisée en laser et en dermatologie esthétique depuis 25 ans. Oui, le Botox est un médicament extraordinaire qui diminue les rides d'expression déjà présentes. Et c'est une très belle prévention de l'accentuation future des rides, convient-elle. Mais elle affirme n'avoir aucune demande de patientes dans la vingtaine. Tout comme, selon elle, la moyenne de ses confrères. La demande est plutôt à partir de 40 ans. Dans la vingtaine, c'est trop tôt. On a encore une peau très élastique. Le collagène est encore très fort, dit Mme Suzanne Gagnon. La vraie prévention importante à faire à cet âge-là, C'est la protection solaire, clame-t-elle. C'est sûr que le Botox est tentant pour les jeunes femmes. C'est un traitement non-invasif, bien toléré, rapide d'exécution et qu'on peut arrêter quand on veut, rappelle-t-elle. Est-ce dangereux de faire du Botox vers 20 ans? Non, à cet âge-là, ce sont de faibles doses qui sont utilisées. Ce n'est pas dangereux, mais ce n'est pas nécessaire, répond la dermatologue. Elle souligne que cela va simplement nuire au portefeuille. Mais dans la vingtaine, il n'y a aucun problème à faire du Botox pour une occasion spéciale comme un mariage. Par contre, il peut y avoir un risque de dépendance, prévient-elle. La docteure Gagnon commence toutefois à voir des patientes qui sont dans la trentaine. Si dans la trentaine, une personne commence à avoir des rides visibles, que ses parents ont des rides prononcées, la prévention a alors sa place, nuance-t-elle. On peut alors bénéficier de l'effet préventif du Botox sans avoir à commencer dans la vingtaine. Quant aux résultats naturels tant recherchés, cela ne dépend pas du Botox, mais du médecin qui injecte. Il faut que ce soit la bonne dose, la bonne dilution, à la bonne place et à la bonne profondeur, souligne-t-elle. Les personnes interrogées dans le cadre de cet article ont accepté de témoigner en donnant uniquement leur prénom. Le sujet du Botox dans la vingtaine étant délicat et pouvant susciter des préjugés. L'ABC du Botox, qu'est-ce que le Botox? C'est une protéine purifiée d'origine bactérienne, une toxine botulinique de type A commercialisée par la compagnie pharmaceutique Allergan. L'injection de ce médicament dans le muscle bloque la transmission nerveuse qui cause la contraction du muscle. Cela entraîne une relaxation musculaire locale qui diminue les rides du visage. Les effets sont visibles quelques jours après l'injection. L'avis de la psy. Ça correspond à un mal de la société dans laquelle on se trouve. Tout le monde a de la difficulté avec son image corporelle. Mais les jeunes sont plus susceptibles d'avoir ces insatisfactions-là, explique la psychologue Annie Aimé, professeure au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais et copropriétaire de la clinique IMAVI. Elle constate aussi une augmentation des traitements et opérations de chirurgie esthétique chez les jeunes pour contrer ces insatisfactions corporelles. Au banc des accusés, les médias sociaux. La psychologue souligne qu'il est de plus en plus démontré que plus on est exposé à des images sur les réseaux sociaux, plus on risque d'être insatisfait de son propre corps. Et ce, même si les milléniaux savent très bien que les images sont retouchées, que des filtres sont ajoutés et que pour un égoportrait publié sur Instagram, il a fallu 15 essais. Mais dans la vingtaine, est-on réellement préoccupé par les rides et la vieillesse? L'idée d'avoir des rides, un corps qui change, ce n'est facile pour personne, jeune ou moins jeune. Mais il y en a pour qui c'est vraiment plus difficile. Cette préoccupation est liée à un désir d'être accepté, aimé et reconnu, dit la psychologue Annie Aimé. Et c'est un âge où on est très influençable, surtout par ses amis. On a un fort désir d'appartenir à un groupe et on se définit beaucoup par son image, rappelle la psychologue. Le culte de la jeunesse, l'insatisfaction de son image corporelle et le recours à des traitements pour modifier son apparence, tout cela risque de s'amplifier, croit la psychologue. Ici Hélène Denis qui vous remercie d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens de ce vendredi 2 février, journée où plusieurs mangent des crêpes puisque c'est la Chandeleur. Merci Mathieu Tessier, puis bon week-end Mathieu qui était à la mise en onde et au choix musical. Je vous retrouve, j'espère bien, lundi. Portez-vous bien. Thank you.